affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous, d'étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor et nous voilà pour le 102e numéro où nous nous pencherons sur le dernier film de Lars von Trier, The House That Jack Built. Ce sera avec Félix Elie Occitane et puis on continuera du côté d'une autre sortie toute différente puisque le documentariste chinois Wang Bing sort Les âmes mortes, il a sorti ça la semaine dernière, un film fleuve sur lequel on reviendra avec Meriel et puis on terminera avec quelques idées de sortie. La toile cette semaine c'est donc The House That Jack Built, c'est avec Félix, Ellie et Occitane. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Oops, that was maybe a mistake.
What was maybe a mistake?
Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one.
Alors, une première scène de meurtre dans cette bande-annonce pour un film qui tourne autour d'un serial killer, justement, alors en 5 tableaux et un très long épilogue, m'avez-vous dit. Avant l'émission, je me tourne tout de suite vers vous, puisque en ce qui me concerne, j'ai pas eu le temps de voir le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que se cache derrière votre mine perplexe à tous les trois?
C'est un objet très particulier, je pense, enfin vraiment assez... assez difficile à décrire et assez composite déjà. Enfin, je pense que c'est important de le dire. Enfin, quand on va voir ce film, c'est pas un thriller classique. Hein, ça, c'est une espèce de long délire assez indescriptible.
Oui, je pense que comme beaucoup de films de Lars von Trier, c'est un mélange entre comment dire quelque chose qui est un très bel objet parfois et parfois très lourd et très difficile à regarder. Et en sortant, on est effectivement, comme tu disais Rémi, on est perplexe parce qu'il y a des scènes où on se dit oh là là, il en fait vraiment beaucoup, beaucoup trop. Un certain nombre de scènes de meurtre, justement, parce que là, on en a pour notre argent, on va dire, en termes de meurtre d'horreur. Et en même temps, c'est du Lars von Trier qui fait du Lars von Trier très souvent, et en même temps, il y a des passages magnifiques.
Et oui, donc on peut se demander peut-être finalement pourquoi on va voir ce genre de film. Enfin moi, c'est ça que je me demande. Quand je vais voir un film de Lars von Trier, c'est souvent, ça me met dans une situation telle que j'interroge la possibilité d'existence du film même. Je me dis, c'est-à-dire, comment ça se fait qu'un film comme ça que soit possible, quoi. Ça va, c'est tellement gros, ça va tellement loin. C'est pas un cinéma de la croyance, c'est un cinéma qu'on va voir pour... je sais pas, pour parce que c'est intéressant, mais comme le psychotique est intéressant pour le psychiatre, c'est-à-dire comme on s'intéresse pour des cas, pour des malades, voilà, voir des meurtres tous plus horribles les uns que les autres, surtout bon, pour un petit étudiant comme moi en cinéma qui a appris en hippocane que le travelling est affaire de morale, etc. Donc, que le cinéma c'est aussi ça, et ben voir un mec piétiner une scène après l'autre tous les principes moraux que je peux me fixer quand je vais voir des films, c'est une expérience assez intéressant, c'est mi dégoûtant mi intéressant, je dirais.
Oui, parce mi dégoûtant mi intéressant.
Puis il y a, enfin comme tu disais, il y a ce côté, voilà, on va voir aussi quelqu'un qui piétine tous ces principes éthiques du cinéma, et c'est aussi la question qui reste en suspens pendant tout le film, qui on regarde? Est-ce qu'on regarde Lars von Trier qui se regarde lui-même à travers son personnage? Parce qu'il y a toute une espèce de réflexion à moitié moqueuse autour de tout ce qu'on a pu dire de Lars von Trier, en mode « oui, ce qu'il fait dans ses films, c'est ce qu'il peut pas faire en vrai » et tout ça. Enfin, il y a une espèce de méta, de truc méta sur lui-même et sur son rapport au cinéma qui est assez troublant. Et en sortant, on n'arrive toujours pas, je trouve, à déterminer comment il se situe par rapport à tout ça.
Oui, je suis d'accord. Puis, enfin, il faut quand même, peut-être, si on parle du film, précisément, il y a un truc qui m'a tenu quand même, c'est que il est drôle quand même. Enfin, moi j'ai beaucoup rigolé. Alors de moins en moins au cours du film, mais ne serait-ce qu'à la première scène, cette scène de massacre d'Uma Thurman à coups de, comment on appelle ça, de cric, c'est ça. C'est quelque chose de très joli et de très intelligent, je trouve. Après, peut-être que je prête trop d'intelligence à Lars von Trier, mais il y a quelque chose de... Il pousse à bout un des principes qu'on voit souvent dans le cinéma, enfin dans le cinéma de genre, qui est celui de la victime stupide, quoi. C'est-à-dire, pourquoi elle fait ça? Pourquoi le personnage va à cet endroit? On sait très bien qu'il va se faire buter. Là, la raison d'être de ce personnage, c'est de se faire buter. C'est vraiment... elle veut mourir, elle veut... Et c'est... Donc c'est très drôle et un peu, toujours un peu méta, donc ça se regarde à je sais pas quel degré d'ironie, c'est indéterminable, mais ça se regarde quoi.
À côté de ça, Félix, tu parlais de certaines scènes qui étaient particulièrement belles.
Oui.
Mais ça a l'air de te faire mal d'y repenser, mais...
Non, ben, en fait c'est que je trouve qu'il y a une relation compliquée entre le film et l'horreur qu'il montre. Si je peux faire un petit détour avant de donner ma réponse, c'est que, comme tu disais, Ellie, il y a tout un jeu avec les codes du cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Et le fait que, chaque fois, donc c'est un film qui est divisé en 5 tableaux. À chaque fois qu'un tableau commence, on est présenté à une victime. On sait très bien qu'elle va mourir dans d'atroces souffrances. Et qu'au début, on se dit, oui, on est dans le film d'horreur. Et on sait que la victime va mourir. Et donc, on cherche de manière perverse. On se dit, bah, comment elle va mourir? J'ai hâte de découvrir comment elle va mourir. Et que donc au début, c'est un côté un peu rigolo, on se dit, bah voilà, elle a son cric à côté d'elle, elle va se faire taper dessus avec le cric. Et donc il y a une espèce de jouissance, il y a une espèce d'humour, et plus le film avance, plus ça devient atroce. Et à mon avis, le film se transforme à ce moment-là. Je suis à peu près au milieu du film, je dirais au troisième tableau, avec les enfants.
La mère et les enfants.
C'est que là, ça devient terrible. Et le film devient pas plus seulement violent, mais il y a une espèce de beauté qui surgit de cette violence qui est totalement démesurée.
Mais il y a un côté, en plus, surtout que à partir de ce troisième tableau, on a compris aussi le principe qu'il marque ses victimes avec un truc de couleur rouge comme son van, et du coup, quand on voit que dès le début, il met des casquettes rouges aux enfants y compris, on se dit bon, soit je lâche prise d'une certaine manière, soit je me lève et je m'en vais, mais il y a pas d'entre-deux qui est possible. Enfin, une espèce de radicalité, oui, comme tu disais, dans la violence que Lars von Trier va jusqu'à théorisé dans le film, à l'intérieur même du film. Enfin, il va jusqu'à faire son personnage se comparer aux nazis dans une espèce d'extravagance de la violence comme œuvre d'art, en fait. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et en fait, on a une espèce d'inquiétude de se dire, mais est-ce qu'il ne dit pas juste... Enfin, est-ce qu'il ne dit pas juste au premier degré ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, oui, la violence est un art, et puis c'est tout, et il n'y a pas de sous-texte, il n'y a rien à comprendre de plus qu'une espèce de débauche de la violence.
C'est ça, on se demande toujours d'où il parle, en fait, d'où et pour qui. Bon, alors pour moi, souvent, ce genre de... Quand on se demande ça, c'est souvent qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Enfin, c'est que c'est vide, que c'est vain et que c'est de la pure provoque, mais de la provoque sans valeur, parce qu'une provocation, ça a de sens que quand ça s'inscrit contre, je sais pas, un système de pensée dominant, quelque chose à renverser, quelque chose qui résiste, là... Voilà, non seulement on n'y croit pas, et c'est pas fait pour qu'on y croit, il y a plein d'éléments dans la mise en scène très guignolesques, très, voilà, des gros plans qui insistent sur l'arme du crime, etc. Enfin, donc, on sait pas à quel degré le regarder, donc on le regarde pas vraiment, on n'y est jamais confronté, on se raconte pas d'histoire, et voilà, c'est ça que je trouve plus dégoûtant peut-être que l'horreur en elle-même.
Alors du coup, on va peut-être faire l'émission à l'envers. Est-ce que, maintenant qu'on a parlé du film, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en avez, si vous avez aimé chacun? Parce que c'est très intéressant de voir que cette horreur... à vous entendre, j'arrive pas à savoir s'il faut que j'aille le voir ou pas pour l'instant.
Je ne sais pas, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sidération aussi qui est là et qui... Ouais, il y a cette espèce de grande œuvre de Jack qui est aussi le grand œuvre de Lars von Trier, enfin, qui est mis sans cesse en parallèle. Il y a même des images des films précédents de Lars von Trier qui sont montées dans une espèce de petit... de petites émeutes d'images comme ça, un moment et tout. Et même à la fin, la maison que Jack construit, finalement, c'est une maison faite de cadavres. Et en fait, ça fait penser aux maisons du cinéma d'Agnès Varda, enfin, ces espèces de maisons qu'elle faisait avec des pellicules en disant que c'était des films. Et là, on a l'impression qu'il reprend ce motif, mais de manière. Voilà. Exactement comme tu disais, Élise, c'est-à-dire on ne sait pas où il veut en venir et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, quoi. On se demande ce qu'il fait. Et d'un côté, je me dis, voilà, c'est un peu à voir, quoi. Enfin, à expérimenter. Après, je sais pas s'il faut le voir, je sais pas. Qu'en penser?
Moi, je dirais non, qu'il faut pas, parce que si on commence en fait à engendrer pas une dépendance, mais un goût pour ce cinéma-là, qu'est-ce qui va rester après? Qu'est-ce qui va. C'est une curiosité, c'est un exercice de violence et d'horreur, voilà, qui a sa virtuosité, hein, parce que ça reste quand même un grand metteur en scène, etc. Ça prend quand même quand on regarde, mais c'est vain, et puis c'est pas, enfin, moi c'est pas le cinéma envers lequel j'ai envie d'aller, quoi, et de.
Je répondrais à peu près la même chose qu'Occitane, je pense, que une grande perplexité en sortant du film. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? Est-ce que c'est même la question qu'il faut se poser?
Oui, est-ce qu'on peut dire en société qu'on a aimé ce film?
Oui, moi je...
Est-ce qu'on peut le dire à la radio?
je recommanderais quand même d'aller le voir, parce que c'est une expérience. Moi je pense que finalement je l'ai bien aimé, même s'il est difficilement supportable par moments. Mais peut-être justement parce que faut pas, peut-être pas se méprendre sur ce qui est subversif, on va dire, dans le film, et que oui, bah la violence que montre Lars von Trier, elle n'a plus rien d'étonnant. On sait maintenant, on sait bien à quoi ressemble le cinéma de Lars von Trier. Ça fait très longtemps qu'on voit de la violence très difficile à l'écran, et que c'est peut-être pas là qu'il est le plus, on va dire, le plus pertinent ou le plus subversif, mais plutôt justement dans le fait qu'on n'arrive plus à savoir à quel niveau il parle. Quand il reprend tous ces codes du film d'horreur, on se dit, mais est-ce qu'il les reprend pour les détourner? Est-ce qu'il les reprend pour s'en moquer? Est-ce qu'il est méprisant envers ces films de genre? Quand il montre cette violence qui s'y complaît, est-ce qu'il c'est pas un regard sur lui-même et qu'il se moque de lui-même et de tous ses films précédents? Et du coup, j'ai ressenti un grand malaise dans le film, pas parce que ce qu'on me montre est atroce, mais parce que je savais pas du tout comment interpréter ce que je voyais, à quel niveau est-ce qu'il fallait que je comprenne telle action, tel plan. Il y a des plans très étranges, on aurait pu parler même de tous les plans avec Glenn Gould qui sont assez improbables, et ces plans donc récurrents d'un pianiste apparemment dont le personnage principal est fasciné, et on ne sait pas ce que viennent faire ces plans là c'est un peu comme des rappels que le film nous résiste.
Bon, et bien donc Lars von Trier, son petit jeu de massacre sur ses personnages, le cinéma lui-même, sait-on seulement encore ce qui est massacré, ça passe encore en salle en ce moment, et ça s'appelle The House That Jack Built.
Et je vous l'annonçais, notre coup de projecteur cette semaine est consacré au documentariste chinois Wang Bing. C'est avec Marielle Kenley qui a rencontré Clément Dumas, doctorant en études cinématographiques, et Chen Yu, qui travaille sur l'esthétique de la contradiction dans le documentaire de Wang Bing. Écoutez plutôt.
À l'occasion, donc je suis avec Clément et Chen, et à l'occasion de la sortie des âmes mortes, le nouveau film de Wang Bin en salle, on s'est dit qu'on ferait une petite émission. Wang Bin, on l'a découvert en France en 2003 avec un film fleuve de 8 heures et quelques, je crois, qui s'appelle À l'ouest des rails. Et puis ma première question, Chen, c'est qui est ce cinéaste Wang Bin, d'où vient-il?
Pour parler de ce réalisateur, je pense qu'il faut le placer dans son histoire. Déjà, c'est quelqu'un qui est né en 1967. C'est aussi le même moment de la révolution culturelle en Chine. Comme on dit souvent, l'histoire de Chine aujourd'hui, c'est la conjonction entre intérieur et extérieur. Extérieur, intérieur, c'est-à-dire il y a des influences occidentaux et aussi des influences à l'intérieur, les guerres civiles par exemple, entre nationalistes et les communistes. Il est né en 1967, puis il a vécu le moment le plus dur, le plus difficile de l'histoire de Chine contemporain.
Et des deux périodes qui ont parcouru politiquement le paysage politique chinois, donc la période de Mao qui termine en 76 et la période de Deng Xiaoping à partir de 76 jusqu'à aujourd'hui, enfin Jinping étant un peu une continuation.
Il y a une histoire, c'est l'histoire officielle, et l'histoire de ce cinéma, ça s'inscrit dans cette période, mais c'est hors de l'histoire officielle.
Mais c'est vrai que moi, c'est une chose qui m'a marquée à l'Ouest des Rails. Dans Rouille, il y a ce moment où un des ouvriers raconte ce qui se passe, quelle est la situation réelle, et puis il regarde la caméra qui est un peu en bas, et il dit, mais à qui est-ce qu'on peut se plaindre? Et c'est comme si tout à coup, la caméra recueillait ces voix, ces plaintes qui ne sont pas entendues. Et c'est même pas comme si elle allait rendre justice encore, c'est pas la question, mais juste elle fait entendre ses voix qui n'ont nulle part où aller.
Le cinéma de Wang Ping présente souvent la marginalité contemporaine ou historique de la Chine continentale. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté marginal de ce cinéma.
C'est que le cinéma de Wang Ping, c'est aussi un cinéma de la rencontre. Ces films sont à chaque fois des rencontres qu'il fait avec la géographie ou les différents lieux de son pays. C'est assez amusant parce que, en fait, souvent, et ces 10 dernières années en particulier, à partir de Chroniques d'une femme chinoise, chaque film contient dans l'arrière-plan le prochain film. C'est-à-dire qu'il rencontre sur chaque tournage ce qu'il va faire dans le prochain film.
Dans l'histoire du cinéma contemporain en Chine, c'est avant 1978, le cinéma chinois, c'est un outil de l'État qui présente la centralité. La Chine a réussi la guerre, par exemple. Mmh. Et il y a des choses qui sont très, très intéressantes, qui marquent cette représentation de la centralité. Et après cette période, on commence à avoir plein de réalisateurs dit par les Chinois, les 6e et 7e générations, même si Wang Ping s'inscrit dans nulle part. Mais c'est vrai, après cette période, c'est une représentation de la marginalité.
C'est la question de la marge, c'est aussi la question du vestige et la question de la ruine. Son expérience du temps et de l'histoire, c'est aussi de capter, de recueillir, de prendre en compte un monde qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça qu'on va parler des âmes mortes. Il y a un autre aspect de son rapport à l'histoire, c'est comment est-ce qu'il se décrit, comment est-ce qu'il filme la période d'avant la révolution culturelle, la génération avant lui. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de films qui de ces films, donc le fossé, donc la fiction qui fait qui sort en 2010, mais avant ça Chronique d'une femme chinoise en 2007, où il s'intéresse à aux survivants d'une époque qui le précède. Et Les âmes mortes, c'est un peu le film somme, si vous voulez, de cette inquiétude, de cette urgence qu'on sent dans son cinéma, de capter à la fois ceux qui sont morts et aussi les survivants qui sont en train de disparaître. Donc c'est un film de 8h15 qui va être projeté en trois parties et qui s'intéresse à un lieu. Donc le camp de travail de Zhebiango et des survivants de ce camp de travail qui est aujourd'hui disparu et qui se situe au nord du désert de Gobi. Le film, c'est une série d'entretiens réalisés par Wang Ping sur une très longue période entre 2005 et 2017, avec une relation de confiance qu'il a entretenue avec ses survivants. Donc le camp, le Laogai, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces camps de travail, né de la politique du grand bond en avant de Mao à la fin des années 60 et qui visait un mouvement anti-droitier, mais qui était aussi une rééducation du peuple chinois. Pour donner des chiffres, il y a eu 3000 prisonniers dans 3000 personnes qui sont passées dans ce camp entre 57 et 1961. Il y en a seulement 500 qui ont survécu, 2500 sont morts principalement de famine. Les entretiens décrivent assez crûment les différentes façons dont sont mortes les personnes dans ce camp. Et donc il y a ces deux temporalités, hein, la temporalité de la parole, donc le contexte politique, et la temporalité des images, le temps du tournage. Et il y a une troisième temporalité qui vient s'inscrire un petit peu dans le film, et qui est plus difficile à cerner, et qui est comment est-ce que le film est finalement un miroir sur l'actualité. C'est vraiment une question très intéressante, parce que les camps de travail sont pas fermés. Il en existe en Chine aujourd'hui énormément, même s'il y a une sorte de mutisme sur cette question. Les dissidents politiques sont envoyés dans des camps, et il y a aussi toute cette question de la discrimination religieuse qui se passe sur certains territoires chinois, donc les Ouïghours dont on aurait pu parler également, mais aussi au Tibet, où les dissidents politiques sont envoyés dans des camps. Et il y a vraiment cet espace fantomatique qui appartient aussi au film, hein, ce renvoi vers le présent et vers l'actualité de Chine. En fait, les âmes mortes se basent sur plusieurs sources. Donc il y a déjà son propre travail, donc on l'a déjà dit, mais le film est un peu une suite ou une continuation de son travail qu'il avait fait à la fin des années 2000, mais qu'il avait entamé en 97 quand il a rencontré Refaming, donc qui sera la protagoniste de son documentaire en 2007, Refaming, chronique d'une femme chinoise, et qui reprend, donc qui est aussi une survivante de Jian Bianguo, et dans ce film il reprend ce dispositif d'un cadre fixe pour l'entretien, et elle raconte en fait sa vie. Mais il y a d'autres sources textuelles, cette fois-ci à la fois fictionnelles et documentaires, qui lui ont permis de travailler sur cette question, hein, sur la question à la fois des camps de travail et à la fois de Jian Bianguo comme un des lieux de cette histoire particulière de la Chine. Il y a donc un livre qui est sorti à la fin des années 90 en Chine et qui a ensuite été traduit en anglais et en français, Mémoire de Jian Bianguo, donc qui est en fait un romancier chinois, Yang Qian Hui, qui a fictionnalisé en fait 13 histoires de survivants. Et c'est beaucoup appuyé sur ce travail, qui est un travail romanesque, mais qui est aussi un travail de témoignage. Et évidemment, les mémoires de Refaming, donc cette femme dont est sorti le film de 2007, où elle a écrit son histoire, qui n'est pas seulement l'histoire de comment est-ce qu'elle a survécu au camp, mais qui est aussi ce qui a suivi, enfin, son éducation avant, et ce qui a suivi après le grand bond en avant, pendant la révolution culturelle, où elle a encore été à nouveau inquiétée par le mouvement anti-droitier de l'époque, et jusqu'à aujourd'hui. La perception que produit les films de Wang Bing, il y a quelque chose de, pas ouais, forcément d'universel, mais de commun, qui est produit par le dispositif.
Et c'est drôle parce que moi, je connais pas très bien son cinéma, mais depuis À l'Ouest des Rails, que j'ai vu à l'époque, mais j'étais petite, et j'ai vu... Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai vu ces films quand ils sortaient, mais j'étais trop jeune, donc je les voyais, mais ça, je sais même pas ce qui m'est resté ou pas. Et puis là, en revoyant des... j'ai revu des extraits de films. On avait vu, il y a pas si longtemps, Les Trois Sœurs du Yunnan, en fait. Et j'ai commencé à me dire ce que toi, tu as mieux formulé. Mais ça commence à émerger dans mon esprit, donc je me dis, c'est pas seulement une question de perception, c'est vraiment une fonction qui donne à la caméra, une fonction qui donne au cinéma un espoir aussi immense. Enfin, moi, Wang Bing, c'est quelqu'un qui me donne de l'espoir dans sa pratique de cinéma.
Les âmes mortes, c'est aussi en fait l'histoire, et on le voit dans tous les entretiens, parce que les entretiens sont séparés, et à chaque fois, on recommence la même histoire, mais à travers un autre point de vue. Mais du coup, on arrive à faire des croisements, et les croisements entre les différents témoignages sont intéressants parce qu'ils font ressortir quelque chose. Et il y a un cinéologue français très connu, Simon Leys, qui en parlait très justement, en disant que l'expérience des camps des Laogai, c'était soit d'accepter d'être soi-même, mais du coup vous étiez obligé de mourir parce qu'il y avait une déperdition, il y avait plus à manger, il y avait plus de lien social, etc. Ou vous acceptiez de survivre, mais du coup vous sortiez de vous-même. Et là, c'est sortir de soi-même, et c'est ce qu'on ressent dans les entretiens. Dans les témoignages de ces survivants, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'ils disent pas ou qu'on sent à l'intérieur des interstices de leurs paroles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils s'effondrent, où ils n'arrivent plus à parler, où ils n'arrivent plus à expliquer ce qui leur est arrivé, parce qu'on sent bien que ce qui est arrivé, c'est un processus de déshumanisation. Et ce processus de déshumanisation, on le retrouve de différentes manières dans le cinéma de Wang Bing. Donc là, la question de la catastrophe, traumatique, donc de l'expérience du camp, mais on le retrouve aussi dans Les Trois Sœurs de Yunnan, où avec la répétition donc de ces trois filles laissées toutes seules dans un espace extrêmement reculé, elles retrouvent une sorte d'expérience de la bestialité où elles sont laissées dans leur propre compte. Il y a aussi un processus de déshumanisation qui est un peu semblable, qu'on retrouve aussi dans L'Homme sans nom, même si les gestes, c'est aussi un cinéma, donc un cinéma de la parole dans Les âmes mortes, mais il y a aussi un cinéma du geste, et les gestes et les actions, tu disais les actions, redonnent, on va dire, une cadence au film, mais aussi une sorte d'humanité aux personnages, qui sont en train de faire, qui sont en train d'organiser leur vie, malgré des conditions qui sont très difficiles.
Et dans Le Fossé, il en fait une dramaturgie, c'est peut-être là où c'est une fiction, c'est-à-dire que tout est écrit vers ce point-là.
C'est ce qui l'a intéressé dans Le Fossé, qu'il a essayé de montrer, c'est comment est-ce que ces hommes ont accepté, finalement, ces hommes et ces femmes ont accepté ces conditions. C'est un processus de déshumanisation effroyable, et qui est raconté donc par des survivants dans Les âmes mortes, où c'est assez terrible, parce que certains le disent, certains le cachent, mais qu'ils ont été obligés de tricher, c'est-à-dire qu'ils ont volé la nourriture du voisin, ils étaient aidés parce qu'on leur envoyait de la nourriture, et ils cachaient la nourriture parce que évidemment il n'y avait plus assez à manger. Enfin, il y a aussi les limites de ce dispositif, où c'est des survivants aussi parce qu'ils ont survécu et qu'ils ont fait des choses pour survivre.
Il me semble que tous ces films, c'est des recherches qu'il a fait un après un autre. Une après une autre, si on peut dire. Des recherches qu'il a fait une après une autre. Je pense que c'est un cinéma qui réfléchit. Qui réfléchit lui-même aussi, qui a envie de faire réfléchir... qui d'abord a envie de faire réfléchir aux gens, et qui réfléchit aussi lui-même. Je donne un exemple joyeux, c'est Happy Valley. Happy Valley. En fait, c'est un film qui parle toujours les trois sœurs... C'est le début de Trois Sœurs du Yunnan, c'est un court-métrage. Mais la manière de présenter, c'était pas triste du tout. C'était... bien sûr, ça représente... il y a une sorte d'injustice dans l'économie des gens qui vivent dans cette vallée, et l'économie de Chine continentale aujourd'hui. C'est vraiment contradictoire. Or, les gens qui vivent avec les matérialités très, très limitées, mais de manière joyeuse. Ils n'ont pas besoin autant de matériel pour être joyeux.
Effectivement, il y a le processus de déshumanisation qu'on voit dans ces films de la marge, où ils filment des environnements à la marge, mais il y a aussi un processus de comment est-ce qu'on montre le lien social et la part d'humanité. Et on le voit aussi dans Argent amer.
Et ce que je veux dire par rapport à cette idée de... Il n'y a pas que des choses tristes dans un cinéma. J'ai dit juste, il y a aussi des choses rigolos, intéressantes, si on peut dire humour, et contradictoires par rapport à la situation un peu difficile.
Bah, contradictoire, et en même temps, c'est une façon de survivre. Enfin, même dans À l'Ouest des Rails, quand on les voit tout à coup fêter le nouvel an, bon, tout de suite après, ils vont se mettre à parler des problèmes. Mais il y aura des moments où ils vont rire, des moments où ils vont se chamailler, des moments où ils vont se souhaiter le meilleur et le pire, mais surtout le meilleur. Parce que oui, c'est une contradiction, mais sans ça, on ne pourrait vraiment pas vivre.
Ouais.
Voilà, c'est un entretien réalisé depuis Paris par Mériel Canet. Enfin, comme chaque semaine, nous terminons notre émission par quelques petits conseils de sortie. Et je commence avec un biopic, ça sera la sortie cette semaine. Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant 20 ans le laboratoire de l'Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme, entre déclin et intimité impossible. Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche désespérée d'être vide et il l'incarne sous le regard de Paolo Sorrentino qui sort donc son nouveau film cette semaine, Silvio et les autres. Alors est-ce que ce sera de nouveau de la veine du génial La Grande Bellezza ou est-ce que ce sera à nouveau de l'auto-caricature comme dans le tristonné Youth qui avait suivi ? Eh bien vous pourrez le savoir en salle cette semaine avec ce film donc où Berlusconi est incarné par le grand Tony Servillo.
Silvio.
Sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita.
E il mio ruolo politico?
Semplice. Convincere sei senatori a passare dalla tua parte.
Convincere sei senatori.
Giuro di essere fedele alla Repubblica.
L'événement cette semaine, c'est le graphique de Boscope de Georges Dumoulin et Sota Dumoulin, film de 1976. Le film étant ressorti national et passe en avant-première le 3 novembre à 22h30 au cinéma Lumière Terreau. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, affreux, sale, mais contente. Elles sont les membres de la famille Dandron dont nous allons suivre l'irrésistible ascension. Pendant que sa femme cuisine les abats de la volaille, Roger récupère dans les poubelles de quoi bricoler un ordinateur qui lui donnera la recette du succès. Pissenlit le fils, malgré quelques chromosomes facétieux, réussit à mettre le progrès en équation, tandis que Clémentine, la fille, exerce avec indolence le plus vieux métier du monde. Ce film, adaptation d'une pièce du Café de la Gare, est sans doute un peu tombé dans l'oubli depuis, a une place toute particulière à Lyon, puisque l'ex-CNP Terreau l'a projeté sans interruption de 1976 à 2010. Et donc juste avant sa ressortie, vous pourrez voir ce film culte à Lyon en avant-première, au Lumière Terreau, le nouveau nom du cinéma.
C'était obscène.
Non. Et de toute façon, même si c'est obscène, j'en suis pas responsable. Hein?
Quoi?
C'est la nation tout entière qui est responsable. Paf! Hein? On a les danses et les chefs qu'on mérite.
Ah, c'est nouveau ça.
C'est un proverbe espagnol.
Ah ouais? Ouais. C'est jamais.
Allez, 3-4!
Enfin, du côté des ressorties, on se tourne vers l'Institut Lumière où le Festival Lumière s'est terminé mais se prolonge malgré tout un petit peu avec une petite sélection, un petit best-of du Festival Lumière. Et je vous conseille tout particulièrement la rétrospective consacrée à Henri Decoin avec entre autres Les Inconnus dans la maison qui sera projetée pour la dernière fois ce jeudi à 17h. Les Inconnus dans la maison, un film de 1942 où Maître Loursat se noie dans l'alcool et la mélancolie depuis que son épouse l'a quitté 18 ans auparavant. L'avocat vit en reclus dans sa vaste et lugubre maison avec sa fille. Mais une nuit, alors qu'une détonation résonne, Loursat découvre chez lui le cadavre d'un inconnu. La fille, donc Nicole, et son petit ami sont bientôt inquiétés. Ce film policier est surtout l'un des plus grands rôles de l'immense Rému dans le rôle de Maître Loursat. C'est vraiment une performance d'acteur assez extraordinaire, le tout dans un noir et blanc magnifique. Bref, une très belle occasion de découvrir tout un pan du cinéma français un petit peu oublié avec des réalisateurs donc aussi importants qu'Henri Decoin.
Tandis que les Daillas font valser les bénéfices de la charcuterie, Madame Manu compte sou à sou. Tandis que M. Destriveau s'enferme dans son mutisme, Madame Manu fait la conversation à son fils. Et la nuit, laisse ouverte la porte de sa chambre pour surveiller et veiller sur son sommeil. C'est une mère parfaite, c'est une sainte. Rien d'étonnant que Manu n'ait eu qu'une idée. Foutre le camp. L'évasion ! L'évasion !
Voilà, et autre ressortie que je mentionne vite fait juste avant de se quitter, Mishka de Jean-François Stévenin passe lundi au cinéma Le Zola dans le cadre d'une projection de l'intégrale de Jean-François Stévenin.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I got no gun and I'm coming out.
Vous écoutiez D'étoiles le plein des yeux, son deuxième numéro avec cette semaine encore Rémi Cerda, Occitane, Lacurie, Eli, Rofast, Félix Barancy, Meriel Kenley. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour de nouvelles expériences cinématographiques. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos avis sur notre page Facebook, sur la page de l'émission, dans les commentaires. Et puis on vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
I want you to come down.